Merci pour cet éclairage très, très parlant donc, du domaine de la BD, des comics, avec un excellent effort de définition et de confrontation de ce qu'est la BD punk par rapport à la BD, disons, grand public, vous avez appelé mainstream. Toujours dans le même univers donc, de la bande dessinée, un autre exemple avec Alexandre Marchand. Alexandre Marchand, qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de la drogue. Il va se pencher sur la revue Viper, donc l'intitulé de sa communication est le suivant, Viper, Bloody et les Punks vers une sous-culture de la défonce, 1976-1984. Donc les Punks et la drogue à travers la bande dessinée. Bon. Tout va bien techniquement,
oui,
c'est bon.
J'attends le premier slide.
Mais... Parfait.
Oui. Très bien. Merci de m'avoir introduit et merci encore aux organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui pour présenter un exposé qui va étudier plus particulièrement les liens tissés entre la culture punk, l'imaginaire punk d'un côté, et de l'autre, la prise de stupéfiants, la défonce, la toxicomanie. Et je précise tout de suite que je ne suis pas un spécialiste de la scène punk ou même de la BD punk, puisqu'à la base, comme il a été dit, j'ai fait ma thèse d'histoire contemporaine sur la prohibition des stupéfiants en France, des années 60 aux années 90. Mais dans l'étude des multiples sous-cultures qui ont pu légitimer, du point de vue des usagers, la prise de toxique, la prise de stupéfiants, on trouve à côté des hippies, des beatniks, des révolutionnaires 68-arts, et des amateurs de rock psychédélique, on trouve aussi les punks, artistes, bohèmes gravitant autour des artistes punks et publics, dans les années 70-80. Car la défonce était un élément important de l'imaginaire punk, c'est une manière d'exprimer viscéralement le nihilisme au cœur de ce courant, no future, mais jouissance immédiate, y compris sans penser au lendemain, et donc en passant par la prise de produits spécifiques. Et les groupes et artistes punk ne se contentaient pas seulement de consommer de l'alcool, des bières fortes, de mauvaise qualité et en grande quantité. Il en est arrivé à plus d'un de faire des mélanges avec des amphétamines, des médicaments psychotropes qui étaient alors légaux, ou pire, de l'héroïne injectée. Et ce rapport particulier aux drogues s'est retrouvé ensuite à la base d'une nouvelle sous-culture appropriée par de nombreux toxicomanes dans les années 80, ce qui est passé par certaines productions comme le magazine de BD Viper, ou des personnages comme celui du punk héroïnomane Bloody, inventé par le dessinateur Pierre Rouin, qui nous a quittés il y a un an à peu près, en novembre 2015. Et c'est ce dont je voudrais parler à présent, hein, Viper, Bloody, les punks et les drogués. Quel lien particulier a-t-on entre la culture punk et la drogue, et quelles ont pu être les manifestations culturelles, visuelles, esthétiques, hein, de cette culture punk de la défonce? Et donc je voudrais articuler mon propos en trois points. D'abord, je voudrais revenir de manière plus générale sur le rapport entre la scène punk, la culture punk et la prise de drogue. Ça me paraît important de placer ces éléments de contexte avant d'aller ensuite, deuxième point, vers l'étude de cas du magazine Viper, un magazine de bande dessinée, et ensuite le personnage de Bloody. Alors, premier point pour faire le lien donc, en première partie sur la culture punk et la défonce. D'abord, la première forme que peut avoir ce rapport, c'est celui de l'usage. Hein. Le punk des années 70, à l'image de Sid Vicious des Sex Pistols britanniques, était avant tout un speed freak, un consommateur de speed, c'est-à-dire qui consommait massivement des amphétamines sur le mode de l'ingestion, voire parfois de l'injection. Hein, l'amphétamine est sous forme liquide, ou sinon on le broie pour pouvoir se l'injecter. Et la prise de drogue était associée à un certain mode de vie. Elle correspondait, pour ceux qui en consommaient, à une démarche d'exclusion volontaire de la société. Elle permettait d'adopter, si on prenait du speed, un comportement grossier, imprévisible, saccadé, voire catatonique. Hein, on a ici une citation d'Eudlin qui nous dit qu'en mettant en scène la catatonie, les punks s'affichaient comme étant les rebuts de la société. Et quoi de mieux pour avoir un comportement de la sorte que de prendre des amphétamines, des speed, hein, pour se poser en rebut. Hein, ce sont des caractéristiques comportementales qu'on va retrouver chez Bloody, par exemple, hein, le personnage de Pierre Rouin. Et donc, beaucoup de punks étaient de grands consommateurs d'amphétamines, qui à l'époque, dans les années 70, étaient encore en vente libre, ou parfois conditionnées par la prescription, avant qu'elles ne soient interdites petit à petit, au cours de la décennie. Le Mandrax, le Maxiton, le Tonédron, la Métaqualone, plus connue sous le nom de Qualude, étaient souvent ingérés hein, par les punks. Par exemple, Éric Desbrisse, leader de Métal Urbain et membre d'Asphalt Jungle, admettra plus tard, dans un témoignage rétrospectif, qu'à l'époque, vers 1976, on tournait à une boîte de Captagon par jour. Captagon étant la version commercialisable de la phénéthyline, donc une amphétamine. Et c'est ce que prenaient à la base beaucoup d'artistes punk. En 1976, ceux qui se proclamaient punk sur la scène parisienne, de temps en temps prenaient du speed et se juraient d'ailleurs de ne prendre du speed pour imiter les mods britanniques. Bon. Et par la suite, malheureusement, pour certains d'entre eux, l'héroïne, dont la quantité a augmenté sur le marché français à partir de la fin des années 70, est venue s'ajouter à la panoplie et certains sont passés aussi à l'héroïne. Alors, il y a un lien, donc, vous voyez, entre culture punk et défonce par l'usage, mais aussi parce que certains artistes punk en jouaient aussi, en faisant des clins d'œil, parfois très appuyés, aux produits stupéfiants, dans leurs textes, leurs chansons, leurs prestations. Hein, Lou Reed a repris en 1974 un texte de Velvet Underground de 10 ans antérieurs qui s'appelait Heroin. Speed, guitare et rock'n'roll est devenu le credo de plus d'un artiste punk, et certains ont fait des clins d'œil très appuyés, comme par exemple Alain Kahn, un chanteur énigmatique, transgenre s'il en est, qui faisait paraître son morceau en 1976, Heureusement, en France, on ne se drogue pas. Évidemment, c'est ironique. Et il a provoqué en même temps une polémique dans le milieu des critiques rock et des disquaires avec un autre titre, un Speed My Speed. On retrouve encore une fois la référence au speed. Et le texte, en fait, regorgeait de références à des noms de médicaments appréciés par les toxicomanes de l'époque. Encore une fois, ces amphétamines légales. Autre exemple de clin d'œil appuyé d'artistes punk à la toxicomanie, même si là, c'est pas vraiment pour de l'usage. C'est, en 1978, vous avez un groupe normand qui s'est formé, qui s'appelait les Olivenstein. Et là, le nom du groupe était une référence directe au psychiatre Claude Olivenstein, le directeur de l'hôpital Marmottan à Paris, et qui était le monsieur drogue de ce temps-là, invité sur tous les plateaux télé et interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Et il en était fort marri, ce monsieur, d'avoir été associé à ce groupe, y compris quand ce groupe le provoquait, quand en janvier 1980, les Olivenstein sont allés donner un concert au Palace de Fabrice Emmaüer et ont chanté « Olivenstein, c'était dans les veines ». Donc, j'étais dans la peau, mais j'étais aussi dans les veines comme un fixe d'héroïne, ce qui n'a pas manqué d'agacer le bon docteur, qui s'est demandé s'il n'allait pas tenter un procès au groupe, et finalement, il a refusé, de peur de perdre une partie de sa clientèle, des jeunes gens qui pouvaient apprécier la musique des Olivenstein. Alors, au-delà des clins d'œil, il y a aussi chez certains punks ou esthètes punks qui gravitent autour de la nébuleuse, une véritable effort de théorisation de la défonce. Hein, il y avait quelques grandes figures qui ne faisaient pas mystère de leur consommation de produits psychotropes et qui l'enracinaient dans un ensemble de références littéraires et artistiques. Alors, on retrouve ici Alain Pacadis, Patrick Oedlin ou Alain Kahn que j'évoquais tout à l'heure. Et par exemple, en 1978, Oedlin va publier un essai « L'aventure punk » aux éditions du Sagittaire, qui se veut être un ouvrage qui résume un peu l'esthétique punk, la philosophie punk. Et il présentait par exemple, donc il y avait beaucoup de références aussi à la Beat Generation dans l'essai, des références à William Burroughs, l'auteur beatnik américain. Et finalement, le punk est le nouvel avatar du clochard céleste dont parlait Burroughs dans ses romans, Burroughs qui est l'auteur de Junkie. Et dans l'aventure punk aussi, Oedlin présentait ce qui devait être l'attirail du punk de l'époque, le blouson de cuir perfecto, tennis ou Santiago pied, lunettes noires, et puis aussi même port de la shooteuse, shooteuse étant le surnom affectueux que beaucoup d'héroïnomanes donnaient à leurs seringues avec lesquelles ils se promenaient. Finalement, ces caractéristiques vestimentaires, on va les retrouver plus tard chez le personnage de Bloody, créé par Pierre Rouin, qui correspond tout à fait à ces critères. Donc il y a tout un effort de théorisation, un effort de mise en scène de soi qu'on retrouve chez cette bohème qui gravite autour du milieu punk, comme je parlais d'Oedlin, on pourrait citer aussi Alain Pacadis, qu'on a vu à l'écran, qui régalait Libération à partir de 1975, ses chroniques White Flash sur la nuit parisienne, la nuit punk et ses débordements. Voilà. Et puis enfin, les artistes punk aussi, au nom du do it yourself, pouvaient aussi inciter parfois leur public à les imiter. Et là, je prends par exemple deux citations qui viennent, en fait, sont des témoignages rétrospectifs à propos du festival punk de Mont-de-Marsan en 1977. On a un premier témoignage d'Oedlin qui nous dit que sur scène, je cite, je vois le public, je vois des dizaines de mecs avec dans la main une sorte de chiffon et dans l'autre une boîte de conserve. Ils prennent du dipertrol, il faut le faire passer à travers un chiffon, c'est naturel, c'est une sorte de somnifère pour éléphant. Le dipertrol, qu'est-ce que c'est? C'est le surnom qu'on donne à l'adipartrol, qui était une amphétamine légale à l'époque, qui à la base était un médicament anorexigène, mais comme il contenait une amphétamine, si on le prenait à haute dose, et c'est ce que faisaient beaucoup de punks, on avait des effets euphorisants, des effets hallucinogènes. Bon, et là, ligne en consommé. Il est heureux de voir que dans le public, on a imité cette pratique et que certains prennent du Dipartrol. De même, à Mont-de-Marsan, en 1977, on a aussi dans le public ceux qui vont être Léo Lievenstein, et eux aussi rapportent ce genre de témoignage. Hein. On bouffe des captagons. On en parlait tout à l'heure. On peut pas prendre de whisky en bouteille, mais alors on remplit des jerrycans en plastique trouvés par un pote, et puis on consomme le Captagon, le whisky dans le public. Avec le soleil, il fait tellement chaud que ça devient imbuvable. Qu'importe, nous forçons quand même, et on est défoncé. Voilà. Donc, si vous voulez, la scène punk a donc pu contribuer à la diffusion d'une certaine culture de la défonce, et qui va trouver après des expressions, des illustrations dans certaines publications à venir. Et là, je voudrais passer à ma deuxième partie pour étudier plus spécifiquement Viper. Alors, Viper, qu'est-ce que c'est ? C'est une, donc un magazine de bande dessinée qui est publié pour la première fois en 1981, en octobre. Le directeur en quelque sorte de la publication, c'est le dessinateur contestataire Gérard Santi, et qui a voulu s'inspirer de la tradition des dope comics américains, hein, et des auteurs d'ailleurs qu'on évoquait tout à l'heure dans l'exposé précédent. Cette revue donc va être tirée entre 5000 et 10000 exemplaires. C'est pas un très gros tirage. Il y aura que 11 numéros hein, sur 3 ans, mais qui vont quand même être légendaires pour un certain lectorat, notamment parmi eux des héroïnomanes lourds qui vont se reconnaître un petit peu dans les valeurs, dans l'esthétique véhiculée par Viper. Parce que Viper, ce qui est intéressant, c'est que c'est la rencontre de deux choses. C'est d'une part la rencontre d'auteurs, de dessinateurs qui sont influencés par le punk. Hein, on trouve chez Viper des gens comme Daniel Auchard dit Imagex ou Mathieu de la Fauchardière dit Matt Conture, l'exposé précédent en parlait, et beaucoup de gens qui viennent de Metal Hurlant, hein, qui est autre revue de bande dessinée qui est publiée depuis 1975. Et dans Metal Hurlant, on l'a vu dans l'exposé précédent, donc je ne vais pas y revenir là-dessus, mais on a beaucoup d'allusions au courant punk, des BD punk ou des BD sur le punk, et finalement cet univers-là est transposé vers Viper, hein, qui va donc prolonger cette esthétique. Et puis Viper, c'est la rencontre entre ça et aussi des auteurs comme Gérard Santi qui sont plutôt s'inscrits dans une certaine héritage de la contre-culture des années 60-70 où la toxicomanie est assimilée à une forme de libération, une sorte de révolution, une sorte d'aventure spirituelle. Hein, c'est la morale par exemple qu'on trouve dans une revue comme Actuelle, Jean-François Bizot. Et c'est ces idées-là aussi qui passent dans Viper. Hein, la drogue est une expérience récréative, mais aussi spirituelle. On a des auteurs comme Jodorowsky qui viennent parler de leur vision du monde dans Viper, un nom qu'on voyait d'ailleurs affiché à l'écran dans l'exposé précédent. Voilà. Et on trouve aussi chez Viper, évidemment, des dessinateurs comme Pierre Rouin, qui vont créer Bloody. On trouve l'équipe du fanzine punk Le Crapaud Baveux, édité aux éditions de La Seringue, hein, une petite maison artisanale au nom évocateur. Voilà. Et donc la revue fonctionne sur cette équation. Elle ne connaît que 11 numéros avant d'être interdite en 1984 pour prosélytisme en faveur de l'usage des drogues. Hein. Alors qu'en fait, la ligne éditoriale disait nous ne défendons pas l'apologie, enfin nous ne faisons pas l'apologie des drogues. Mais bon, évidemment, dans les mises en scène de la prise de stupéfiants, dans les BD qu'il y avait dans la revue, dans les textes, on sent bien que évidemment cette pratique est valorisée. Et pour le lecteur qui lui-même est toxicomane et utilise les produits stupéfiants, les images un peu trash de la bande dessinée reflètent un style de vie junkie dans lequel ce lectorat se réclamait. Hein. Donc, vous voyez Viper, hein, c'est un style visuel assez criard. Ça se définit comme étant un trimestriel pour adultes. Il y a quelques bandes dessinées qui ont un caractère clairement pornographique, parfois scatologique. 1984 est par exemple défini comme étant l'année de la gerbe. Lorsque on arrive en 84, vous voyez, on a la couverture d'un numéro. L'idée aussi, c'est dans une culture punk de critiquer la société bourgeoise, de faire de la transgression, hein, beaucoup de transgression. Le journal rappelle aussi la grande hypocrisie de la société qui tolère certaines formes de violence ou de défonce comme l'alcool et qui s'offusque d'autres choses, qui crée des catégories de drogues illicites, et qui s'offusque de certains comportements. On a aussi, je vais citer ici un petit texte, extrait d'un numéro, le numéro spécial de début 84 de Viper. Hein, on voit le texte est assez parlant. Hein, choisis ta dope, hein, prends une cuite, pas du shit. Bon, mais on préfère des choses plus dures. capsule, pilule, faut que ça pullule, donc des amphétamines, hein, légales ou clandestines. Prends du Valium, bon, mais pas d'opium. Prends une biture, pas de piqûre, mais bon, on sait par ailleurs que on trouve des représentations de l'héroïnomanie qui, on sent bien que c'est pas vraiment une critique, mais que c'est plutôt valorisé. Choisis tes clopes, choisis ta dope, hein, dans ce monde pourri, avec la bombe qui nous massacre, 1984 béton grisâtre, autant s'évader dans un petit peu d'extase et des produits, voilà, bon, stupéfiants. Et puis, donc aussi beaucoup de transgressions dans Viper. Et là, malheureusement, j'ai pas retrouvé la page. Hein, et je l'ai pas scanné pour l'afficher à l'écran, sinon ça aurait été pas mal. Mais pour illustrer un petit peu le style de Viper, on avait par exemple dans un numéro que j'avais retrouvé la photographie d'un anus. Et avec, pour légende, ce trou du cul a transporté plus de 20 kilos d'héroïne. Donc, c'est-à-dire, c'est une allusion directe à la pratique de certains usagers et revendeurs qui partaient à l'époque suivre les chemins de Thaïlande et de Birmanie pour aller s'approvisionner en héroïne pour une consommation personnelle et pour revendre à des amis, et qui évidemment faisaient le chemin en retour en mettant la drogue dans des petits sachets, hein, en plastique qu'on ingérait ou qu'on se mettait dans le derrière. Donc là, c'est un clin d'œil évident à certaines formes de petits trafics de stupéfiants. Et toujours sur le mode de la transgression, choqué, hein, pour le plaisir. Et bon, tout ça est très punk. Et donc, j'en viens maintenant à mon troisième point, puisque je vois que le temps passe. Viper s'est terminé en 1984, mais bon, les auteurs qui sont dans Viper vont continuer à dessiner et à créer par ailleurs. Et puis, il y a un petit personnage qui naît dans les colonnes de Viper, qui lui va survivre, il va avoir un certain succès, c'est le personnage de Bloody, hein, le punk Bloody, créé donc par Pierre Rouin. Un grand succès auprès des lecteurs de Viper, et puis on va retrouver Bloody après comme étant la star d'autres créations. Il aura droit à des albums, hein, indépendants édités chez les Humanoïdes Associés, et donc toujours créés par Pierre Rouin. Et on va retrouver aussi Bloody jusqu'à une date assez récente, hein, en gros jusqu'à la mort de Pierre Rouin, dans les colonnes du journal À Sud, qui est la revue de l'association À Sud, l'association d'autosupport, l'association des usagers de drogue, hein, qui milite depuis 1992 pour une reconnaissance, hein, du statut de drogué dans la société. On a le droit de prendre des produits stupéfiants, et c'est un droit politique. Bon, donc Bloody, il est dans les colonnes d'A Sud, il était dans les colonnes de Viper, et ce qui est intéressant avec Bloody, qui est très populaire chez les anciens toxicomanes, j'en ai interrogé plusieurs, et dans les années 80, ils se reconnaissaient bien dans le personnage de Bloody, c'est que chez Bloody, on a une logique de réappropriation du stigmate, si vous voulez, parce que, hein, une logique sociologique bien connue, à la Baker, hein, ou à la Goffman, c'est que finalement, toutes les caractéristiques négatives que la société fait poser sur l'usager de drogue, la déchéance, la saleté, la violence, la décadence, tout cela est repris, hein, dans le personnage de Bloody, et ça devient la source de la création d'une identité, hein, chez les héroïnomanes lourds qui se reconnaissent dans Bloody, pour qui ça devient leur héros, et ça devient donc extrêmement positif. Le stigmate est retourné, réapproprié, et devient la source de la création d'une nouvelle identité. Parce que finalement, Bloody, dans les années 80 et 90, il va incarner, hein, pendant 20 ans, les grands archétypes d'une trajectoire classique d'héroïnomane. Il se défonce, évidemment, à l'héros, avec sa shooteuse. Il éprouve le manque. Il est obligé de courir en quête, hein, de produits stupéfiants ou de dealers dans la ville. Il est aussi polyaddict, hein, il prend des médicaments psychotropes, il prend d'autres drogues, hein, il a recours à de la polyaddiction, et ça aussi c'est assez important dans la culture punk, à l'idée de, enfin, pour ceux qui prennent des produits stupéfiants, c'est, on ne se limite pas à une seule catégorie, à un seul produit, on fait des mélanges, hein, on est polyaddict, on prend des médicaments, de la bière, et à côté des amphétamines, voire de l'héroïne. Et donc, Bloody, il illustre un petit peu toute cette trajectoire. Il n'hésite pas, hein, parfois à chercher de l'argent pour acheter sa dope, y compris par des moyens qui passent par la violence. On le voit ici sortir un couteau. Il est parfois très violent. Il a un comportement qui repose beaucoup sur la pulsion. Pulsion de violence et aussi pulsion sexuelle, parce que c'est un grand érotomane aussi, Bloody. Et au niveau vestimentaire, il arbore le jean troué, le perfecto, hein, et puis la coupe à l'iroquoise. Hein, autant de caractéristiques vestimentaires punk. Hein, et finalement, il y a une sorte, hein, dans les productions de Pierre Rouin, une sorte d'usage politique, on pourrait dire, du corps de Bloody, parce que en mettant en scène ce corps ravagé, hein, par les toxiques, ravagé aussi par les maladies sexuellement transmissibles. Hein, Bloody, il a des rapports sexuels, on ne sait pas trop ce qu'il a comme maladie, mais il a souvent la ch'touille. Donc, et on est en pleine époque du sida aussi à l'époque, qui se diffuse beaucoup chez les héroïnomanes. La deuxième mode de contamination par le sida après les rapports sexuels, c'est le partage de seringues usagées. Donc finalement, Bloody reflète tout ça, et comme le stigmate est retourné et approprié par le lectorat héroïnomane, ça fait qu'il y a une dimension politique à cette mise en scène du corps ravagé, du corps à moitié détruit par le toxique et en même temps transfiguré, parce que quand Bloody est défoncé, c'est l'extase pour lui. Même si par ailleurs, sa vie est médiocre, sa vie est misérable, il vit dans un taudis, il vit en compagnie des rats, il a même approvisionné une petite rate qui s'appelle Riquette, si ma mémoire est bonne, et qui est son animal de compagnie. Bon. Donc on retrouve ce rapport à la transgression, hein, Bloody critique, attaque frontalement les normes de la société bourgeoise, et il a une pratique de la défonce qui est très nihiliste, hein, et qui en cela est très punk. Là ici, donc sur les slides, on a quelques images, hein, de Bloody, extrait de Viper ou extrait d'Assud, hein, Bloody qui gerbe parce qu'il a pris, il s'est trop défoncé, Bloody, hein, qui végète sur un tas de pots de néocodion ou d'un autre produit opiacé disponible en pharmacie et surconsommé à haute dose pour avoir un effet toxicomane. Bloody est la shooteuse avec sa seringue. Bloody, ici, nouvelle incarnation de l'homme de Vitruve. Hein. Bloody est un paradigme. Bloody vit au milieu des rats. Hein. Et Bloody est un violent. Hein. On le voit souvent représenté avec une batte. Là, ici, c'est carrément avec une petite hache, hein, qu'il est représenté. Ah oui, toujours sur le mode, hein, un peu avec beaucoup de second degré, hein, évidemment. Voilà. Et Bloody, hein, incarne bien finalement le profil de l'héroïnomane et les nouvelles formes que prend la toxicomanie dans les années 80, hein, une décennie où cette héroïnomanie se massifie. On franchit le cap, hein, des 10 000 interpellations pour usage et trafic de stupéfiants par an à partir du début des années 80. L'héroïnomanie devient un véritable fléau. On voit se multiplier les scènes ouvertes de la drogue en plein Paris, notamment comme l'île aux Chalons. La population toxicomane se paupérise, alors qu'avant, dans les années 60-70, les hippies étaient parfois issus de bonnes familles ou des classes moyennes. Là, maintenant, la drogue se paupérise. Et puis le sida aussi, hein, frappe massivement les héroïnomanes. Et Bloody est un petit peu l'écho de tout cela, hein, parce qu'il lui arrive dans sa vie, dans ses aventures. Donc, le drogué pestiférait, Bloody l'est, hein, à sa manière, mais tout en retournant le stigmate et en faisant finalement une sorte de marque de fierté. Hein, parce que j'ai interrogé pas mal d'anciens toxicomanes qui me disaient qu'ils se reconnaissaient dans Bloody et qu'ils étaient fiers finalement d'être ce qu'ils étaient, parce que Bloody sublimait leur déchéance, en quelque sorte. Que eux-mêmes ne vivaient pas comme une déchéance, hein, mais comme un mode de vie choisi. Mais Bloody, hein, transfigurait tout cela, hein, était la marque, source d'une grande fierté. Voilà, je m'arrête là parce que je pense que le temps est dépassé. Et simplement, donc, ce que j'ai essayé de résumer dans cette communication, c'est que le courant punk, hein, le courant musical, les artistes, la bohème mondaine qui gravitait autour des artistes, le public, tout cela a produit à la fin des années 70 un certain modèle de consommation, hein, de psychotropes, à côté d'autres modèles qui peuvent rivaliser avec cela. Ça s'est diffusé de cette bohème artistique et mondaine vers le public et ça a touché, hein, après un public plus large, et jusqu'à se cristalliser dans les années 80 en une sous-culture particulière de la défonce. Et là, ce schéma, finalement, ça illustre bien un processus de démocratisation de la bohème, pour citer le sociologue Gérard Mauger. Hein, la drogue, d'abord, est consommée par une petite élite. C'est pas forcément des gens très riches que les punks, mais c'est quand même une élite artistique et bohème. Et puis après, ce mode de consommation se transmet à un cercle plus large. Je vais pas dire jusqu'au grand public, parce que c'est pas le grand public qui lit Viper, qui se reconnaît dans Bloody. Mais finalement, cette pratique, ce modèle s'est répandu à un public beaucoup plus large. Hein. Donc, c'est en quelque sorte démocratisé. Et puis, encore une fois, Bloody, hein, incarnait bien le toxicomane, sa nouvelle figure à partir de la fin des années 70 et pendant les années 80, hein, le paumé, l'ange déchu de la planète Saint-Michel, dirait le documentariste Jean Schmitt en 1978. Et ça correspond bien au nouveau profil que les institutions d'accueil et de soins à l'encontre des toxicomanes rencontrent à partir de ces années-là. Hein. Olivenstein lui-même nous dit, hein, à partir de 1978, le climat se détériore à Marmottan. On voit arriver une clientèle qui se rapproche beaucoup plus du modèle punk que du modèle hippie, donc des gens de classe plus, hein, populaire, violents, alors qu'avant on avait des hippies débonnaires qui venaient de bonnes familles, de la bourgeoisie. Bon, évidemment, c'était un peu caricatural de dire ça, mais bon, globalement, c'est l'idéal type, et après il y a des variations. Hein. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie pour votre attention.
Bien, merci.